Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre 1. Dieu comme esprit. Comme le but de ce livre est de rechercher et d'exposer, sous une forme systématique, ce que la Bible enseigne, la méthode suivie sera, tout d'abord, de donner l'énoncé de l'Écriture, puis d'en résumer le contenu en une proposition et enfin de faire suivre cette proposition d'un commentaire approprié. Il fait que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est un esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Première proposition, Dieu est esprit. Question, qu'est-ce qu'être esprit? Réponse, Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Un esprit est incorporel, c'est une réalité invisible. Dire que Dieu est un esprit, c'est dire que Dieu est incorporel et invisible. Comparer Deutéronome 4, 15, 18. Question, que veut dire, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image? La réponse à cette question est clairement donnée dans les passages suivants. Colossiens 3, 10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Éphésiens 83,24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le prunier de toute la création. Comparé 1 Timothée 1,17. Les mots image et ressemblance ne se rapportent évidemment pas à une ressemblance visible ou corporelle, mais à une ressemblance intellectuelle et morale, ressemblance en connaissance, justice et sainteté de vérité. Il est manifestation de l'esprit sous une forme visible. Jean 1, 32. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Hébreux 1, 7. Et quant aux anges, il dit qu'il fait des anges ses esprits et de ses ministres une flamme de feu. Xim proposition, ce qui est esprit peut se manifester sous une forme visible. I Dieu manifesté sous une forme visible. Exode 24:9,10. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Troisième proposition, Dieu, dans les temps passés, s'est manifesté sous une forme visible. Ce qui a été vu dans ces manifestations de Dieu. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Exode 33, 18, 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut y me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu le tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Quatrième proposition, ce qui a été vu dans ces manifestations de Dieu n'était pas Dieu lui-même, Dieu dans son invisible essence, mais une manifestation de Dieu. Question, y a-t-il contradiction entre Exode 24:9,10, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël, Ésaïe 6:1. Or l'année de la mort du roi Ozia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et Jean 1:18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Réponse absolument aucune. Par exemple, un homme peut voir son image réfléchie dans un miroir. Cet homme pourrait dire « je vois mon visage » et pourrait dire aussi « je n'ai jamais vu mon visage ». De même, des hommes ont vu des manifestations de Dieu, et il est parfaitement vrai de dire que ces hommes virent Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu tel qu'il est, dans son essence invisible, de sorte qu'il est parfaitement vrai de dire aucun homme n'a jamais vu Dieu. À cette catégorie de manifestation de Dieu, appartient l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Une distinction bien nette est faite dans la Bible, dans les langues originales, entre un ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel. Genèse 16:7 10,13 L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse l'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta prospérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter » Elle appela Atta Elroï le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Ici, l'ange de l'Éternel du verset 10 est clairement identifié avec l'Éternel Jéhovah du verset 13. Genèse 21 17 18 Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Genèse 22 11,12 Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit Abraham. Abraham. Et il répondit me voici. L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici, l'ange de l'Éternel dans le verset 11, est identifié avec Dieu dans le verset 12. Juge 2,2 Et l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim, et il dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai introduit dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères, et j'ai dit « Je ne romprai jamais mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Et vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ici, l'ange de l'Éternel dit clairement « J'ai fait ce que Jéhovah a fait ». Voyez aussi Juge 6 11 14,19 24, surtout le verset 14. Un passage très remarquable est celui-ci. Genèse 18 1,2,9,10,13,14,16 L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre alors, ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant « Est-ce que vraiment, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Dans ces versets, un des trois personnages s'identifie avec l'Éternel ou Jéhovah. Dans le chapitre 19, verset 1, deux personnes seulement viennent à Sodome, l'une reste derrière, les deux autres continuent leur route. L'identité de la première nous est révélée dans la suite du récit. Genèse 18 17 20 Alors, l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Puis, dans le verset 22, nous lisons « Abraham se tint encore devant l'Éternel Jéhovah ». Il est évident que celui des trois qui resta en arrière était Jéhovah sous la forme d'un homme. Dans le verset 3, le récit continue. L'Éternel Jéhovah s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, voyez aussi chapitre 19 et 27. Cinquième proposition, l'ange de l'Éternel est clairement identifié avec Jéhovah, une manifestation visible de Jéhovah. Question: qui était exactement cet ange de l'Éternel? Juges 13, 18. Et l'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi t'informes-tu de mon nom? Il est merveilleux, version synodale. Comparé Ésaïe 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, Darbi merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans l'hébreu, le mot merveilleux est le même dans ces deux passages, celui où l'ange de l'Éternel donne son nom, et celui d'Ésaïe, où c'est le nom du Messie promis. Malachie 3:1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Réponse: l'ange de l'Éternel était le Fils de Dieu, avant son incarnation permanente. Voyez aussi Jean 8, 56. Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. L'ange de l'Éternel n'apparaît pas après la naissance du Christ. Voyez Matthieu 1, 20, 28, 2, Luc 2, 9, Acte 8, 26, Acte 12, 7, 23. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre II. L'unité de Dieu. Il fait de l'unité de Dieu. Deutéronome 4, 35. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 6, 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est un seul Éternel, version Darby. Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai saint avant que tu me connusses. Voyez aussi versets 14, 18. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Marc 10, 18. Jésus lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Marc 12, 29. Jésus répondit: le premier de tous les commandements, c'est écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, version synodale. Première proposition: l'Éternel notre Dieu est un seul Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il a la nature de l'unité divine. Question: y a-t-il multiplicité de personnes dans ce Dieu unique? Réponse 1. Le mot hébreu traduit par un seul dans ces passages, dénote une unité composée, non une unité simple. Voyez Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 11, 6. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Nous trouvons un emploi similaire du mot un seul dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 3, 6, 8. Védez-moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Comparez Jean 17:22-23 à « Je leur ai donné la gloire que tu n'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Galates 3:28 « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » 2. Le mot le plus fréquemment employé pour désigner Dieu dans l'Ancien Testament est sous une forme plurielle. 3. Dieu emploie des pronoms pluriels, en parlant de lui-même. Genèse 1:26 Puis Dieu dit « Faisons, l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 3:22 L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Ésaïe 6:8 L'entendit la voix du Seigneur, disant « Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » 4 Zacharie 2:10-11 Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple, j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ici, l'Éternel, Jéhovah parle de lui-même comme envoyé de l'Éternel Jéhovah des armées. 5 L'ange de l'Éternel est, en même temps, identifié avec l'Éternel et cependant la distinction est établie. Voyez chapitre précédent. 6 Jean 1:1 Au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 7 Nous verrons, plus loin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous clairement appelés des êtres divins et aussi clairement distincts l'un de l'autre. Voyez Matthieu 3:16-17-28-19, 2 Corinthiens 13:14. Question : comment Dieu peut-il être trois et un seul, en même temps ? Réponse : il ne peut pas être trois et un seul dans le même sens. Dans quel sens peut-il être un seul et trois ? Une réponse parfaitement satisfaisante à cette question n'est pas possible, étant donné la nature du cas. 1 Parce que Dieu est esprit. Et les nombres appartenant primitivement au monde physique, une difficulté doit surgir si nous essayons de concevoir un être spirituel sous les formes de la pensée physique de Dieu est infini, nous sommes finis, il habite une lumière inaccessible. Nos essais d'une explication philosophique de la triunité de Dieu n'aboutissent qu'à essayer d'exprimer les faits qui concernent l'être infini sous les formes de la pensée finie, nécessairement, ceci ne peut obtenir, même dans les meilleures conditions, qu'un succès partiel. Mais nous savons ceci que Dieu est essentiellement un, et qu'il est aussi trois. Il n'y a qu'un seul Dieu mais ce Dieu se fait connaître à l'homme comme Père, Fils et Saint-Esprit, et ce sont des personnalités distinctes. Jean 14:16 Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Marc 1:10-11 Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Résumé de la doctrine contenue dans ces passages des Écritures. Il y a un seul Dieu, existant de toute éternité et se manifestant à nous en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre I. L'éternité de Dieu. Il est Dieu éternel. Genèse 21:33 Abraham planta un tamaris à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de d'éternité. Ésaïe 40:28 Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Habacuc 1:12 N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Psaume 92,4 Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Psaume 102,25-28 Je dis mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Mais tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voyez aussi Ésaïe 57:15, Romains 1:20 grec, Genèse 1:1, Jean 1:1. Première proposition: Dieu est éternel. Son existence n'a pas eu de commencement, et n'aura pas de fin. Il a toujours été, et elle sera toujours. Comparez Exode 3:14 Il est celui qui est Jéhovah. Il est Dieu immuable. Malachie 3:6 Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Jacques 1:17 Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 1 Samuel 15:29 Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Voyez aussi Hébreux 6:17, Nombre 23:19. Xime proposition: Dieu ne peut changer. Son conseil, son plan et son caractère sont toujours les mêmes. Objection Jonas 3:10 Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Il est dit ici que Dieu se repentit. Réponse: Dieu resta le même quant à son caractère, haïssant absolument le péché et quant à son plan de condamner et de punir le péché, mais comme Ninive changea d'attitude vis-à-vis du péché, Dieu, nécessairement, devait changer d'attitude vis-à-vis de Ninive. Si Dieu demeure le même, si son attitude vis-à-vis du péché et de la justice ne change pas, sa façon d'agir avec les hommes doit changer lorsque ceux-ci se détournent du péché et se repentent. Son caractère reste immuable, mais il change d'attitude envers les hommes qui ont abandonné la position qui lui était en abomination, pour en adopter une qui plaît à son amour immuable de la justice. Objection Genèse 6:6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Ici, il est dit que non seulement Dieu se repentit d'avoir fait l'homme, mais encore qu'il fut affligé en son cœur. Réponse 1 La méchanceté de l'homme était devenue si grande et si répugnante que sa création elle-même était un objet de grand chagrin pour Dieu. Ceci n'implique pas nécessairement que Dieu désira, toute chose considérée, n'avoir pas créé l'homme, mais seulement comme cela est dit qu'il en fut affligé en son cœur. Bien des choses que nous faisons nous sont une cause de chagrin et pourtant, tout considéré, nous ne voudrions pas ne pas les avoir faites de par l'expression « Dieu se repentit ». Voyez le contexte verset 7 qui le démontre clairement. Il faut entendre que Dieu, de créateur qu'il était, devient destructeur verset 7. Le péché de l'homme rendait nécessaire cette façon d'agir. Il faut que le Dieu immuable détruise l'homme qui s'est plongé dans le péché. Dieu existe par lui-même. Jean 5:26 Car, comme le Père a la vie en lui-même. Troisième proposition: Dieu a la vie en lui-même. Dieu, non seulement a existé de toute éternité, mais il existe aussi par lui-même. Voyez aussi Actes 17:24-28. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre IV. L'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Psaume 139:7-10 Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Jérémie 23-23-24 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? Dit l'Éternel. Acte 17-24-28 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes de lui nous sommes la race voyez aussi Ésaïe 57:15. Première proposition Dieu est partout. Il est dans toutes les parties de l'univers et près de chaque individu. En lui, chaque individu possède la vie, le mouvement et l'être. Dieu n'est pas partout dans le même sens. Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jean 20:17 Jésus lui dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Éphésiens 1:20 Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Apocalypse 21:2-3-10-22-23 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux » et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 22:1-3 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Deuxième proposition Dieu est en certains endroits d'une manière où il n'est pas dans d'autres Ésaïe 66:1 Ainsi parle l'Éternel le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il y a une plénitude, et une manifestation de sa présence en certains lieux, qui n'existe pas en d'autres le ciel est l'endroit où, pour le temps présent, la présence et la gloire de Dieu sont spécialement et visiblement manifestées. Note Marc 9:11 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit, descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père, est spécialement manifesté dans le ciel. Dieu le Fils a été spécialement manifesté sur la terre. Voyez aussi Jean 3:13, les évangiles en entier et l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Dieu le Fils, est maintenant au ciel. Acte 7:56, Éphésiens 1:20 et beaucoup d'autres passages. Dieu le Saint-Esprit est manifesté partout. Adam la nature, Genèse 1:2, Psaume 104:30. B dans tous les croyants, Jean 14:16-17, Romains 8:9. C aux incroyants. Jean 16:7-11. Par le moyen de l'Esprit, Le Père et le Fils habitent dans le croyant. Jean 14 17, 19, 20, 23. Voyez aussi Matthieu 28 19, 20. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre V. La personnalité de Dieu. Nous avons vu que Dieu est omniprésent. Cette conception de Dieu doit être contrebalancée par la conception de Dieu comme être personnel. Autrement, nous tombons dans le panthéisme, c'est-à-dire la théorie que Dieu est non seulement partout et en tout, mais que Dieu est tout, et que tout est Dieu, que Dieu n'a pas d'existence distincte de celle de ses créatures. Et Dieu est un Dieu vivant. Jérémie 10, 10 16 Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel, la terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie, elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Notez le contexte versets 3 à 9, surtout 5, 8 et 9. Dieu est ici distingué des idoles, qui sont des choses et non des êtres, qui ne parlent pas, qui ne marchent pas, qui ne peuvent faire le bien, pas plus qu'elles ne sont capables de faire le mal. Mais Jéhovah est plus sage que les sages, il est le Dieu vivant, un roi éternel, un être qui éprouve la colère et la fureur séparée de ses créatures, puisque la terre tremble devant sa colère et que les nations ne supportent pas sa fureur. Acte 14 15 En s'écriant ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. 1 Thessaloniciens 1 9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 2 Chroniques 16 9 à car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Psaume 94 9 10 Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point, lui qui donne à l'homme l'intelligence? Et de nombreux autres passages. Première proposition Dieu est un Dieu vivant. Il entend, il voit, il sait, il sent, il veut, il agit. Il est une personnalité. Il doit être distingué des idoles qui sont des choses, non des personnes. Il doit être distingué des œuvres que ses mains ont formées. Note la personnalité est caractérisée par la connaissance, le sentiment et la volonté. On confond quelquefois la personnalité avec la corporalité. I. Les rapports de Dieu avec les affaires des hommes. Josué 3 10 Josué dit à ceux-ci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Éthiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Daniel 6 20 22 26 27 En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel Daniel. Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi Roi, vis éternellement mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. 1 Timothée 4:10 Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Hébreux 10:28-31 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Xime proposition Dieu s'intéresse d'une façon personnelle et actuelle, aux affaires des hommes et, s'en occupe activement. Il trace un sentier pour son peuple et les y conduit. Il délivre, sauve et châtie. Le Dieu de la Bible se distingue non seulement du Dieu du panthéiste, qui n'a pas d'existence séparée de celle de sa création, mais aussi du Dieu du déiste, qui a créé le monde, y a placé toutes les forces nécessaires à son mouvement et à son développement, l'a mis en marche, puis l'a laissé à lui-même. Dieu est personnellement et activement présent dans les affaires de l'univers. Et Dieu comme créateur. Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1:1-3 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Troisième proposition Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Yves les rapports actuels de Dieu avec le monde qu'il a créé. Psaume 187:30 Vede tous s'attendre à toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu leur donnes. Ils recueillent, tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de bien. Tu caches ta face, ils sont troublés, tu retires leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Ésaïe 45:5-7 Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu, je t'ai saint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Psaume 75 7,5 Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Quatrième proposition Dieu soutient et gouverne le monde qu'il a créé et en prend soin. C'est lui qui dirige l'histoire actuelle du monde. Vais jusqu'où s'étendent les soins et le gouvernement divin. 1 Matthieu 6 26,25 30 Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez Corneille croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Matthieu 10 29,30 Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté dans votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés? Cinquième proposition Les soins et le gouvernement de Dieu s'étendent à toutes ses créatures. 2 Genèse 39-21 L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Daniel 1:9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. 1 Roi 19:5-7 Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Sixième proposition les soins, l'intervention et le gouvernement de Dieu s'étendent jusqu'à l'individu. 3 Matthieu 10:29-30 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté dans votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Septième proposition les soins, l'intervention et le gouvernement de Dieu s'étendent jusqu'aux détails les plus infimes. 4 Psaume 76:11 L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. Genèse 50:20 Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux et Romains 9:17-19. Actes 2:22-23 Hommes israélites, écoutez ces paroles Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Job 1:12 L'Éternel dit à Satan voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2:6 L'Éternel dit à Satan voici, je te le livre, seulement, épargne sa vie. Luc 22:3 Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des 12. Huitième proposition L'autorité et le gouvernement divin s'étendent jusqu'aux méchantes combinaisons et aux mauvaises actions des impies et de Satan. Dieu tire même de cette œuvre, sa propre gloire et le bien de ses enfants. Comparé Romains 8:28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre vie. L'omnipotence. Il le fait que Dieu est omnipotent. Job 42:2 Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Genèse 18:14 Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Voir version Darby. Matthieu 19:26 Jésus les regarda, et leur dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Première proposition Dieu peut tout. Rien ne lui est trop difficile, toutes choses lui sont possibles. Dieu est omnipotent. 1 Genèse 1:3 Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Psaume 33:6-9 Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 107:25-29 Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Nahum 1:3-6 L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, il fait tarir tous les fleuves, le Bazan et le Carmel languissent, la fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui, et les collines se fondent, la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra centre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. Toute la nature est assujettie, d'une façon absolue, à la volonté et à la parole de Dieu. De Jacques 4, 12-15 Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, qui juge le prochain? À vous, maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Tous les hommes sont assujettis d'une façon absolue à sa volonté et à sa parole. Note heureux l'homme qui, volontairement, s'assujettit à la volonté et à la parole de Dieu. 3 Hébreux 13,14 Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont assujettis à sa volonté et à sa parole. 4 Job 12 L'Éternel dit à Satan « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Job 2:6 L'Éternel dit à Satan « Voici, je te le livre, seulement, épargne sa vie. » Satan est assujetti, d'une façon absolue, à sa volonté et à sa parole. Et l'exercice de l'omnipotence de Dieu est imité par sa volonté. Ésaïe 59 1,2 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Xime proposition L'exercice de l'omnipotence de Dieu est limité par sa propre volonté qui est sage, sainte et pleine d'amour. Dieu peut tout mais fait seulement ce que son infinie sagesse, sa sainteté et son amour lui dictent. Question Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan? Réponse Il ne serait pas sage de le détruire encore. Par sa méchanceté, il travaille à l'accomplissement des plans pleins de bonté de Dieu. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre VI. L'omniscience. Et le fait que Dieu est omniscient. 1 Jean 3:20 Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Job 37:16 Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Psaume 147:5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Première proposition Dieu connaît toute chose et est parfait en science, son intelligence n'a point de limite. Littéralement, à sa compréhension, il n'y a pas de nombre. Et ce que Dieu connaît. 1 Proverbe 15:3 Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Première proposition Il voit tout ce qui se passe, en tout lieu et observe le mal et le bien. 2 Psaume 147:4 Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Matthieu 10:29 Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté dans votre Père. Xime proposition Il connaît toutes choses dans la nature, chaque étoile, chaque passereau. 3 Psaume 33 13-15 L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tout ce qui est attentif à toutes leurs actions. Proverbe 5:21 Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Troisième proposition, il voit tous les fils des hommes et il est attentif à toutes leurs actions. Les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il observe l'OTI ses sentiers, littéralement, il nivelle. 4 Psaume 139 2,3 Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Quatrième proposition, il connaît toutes les actions et les expériences des hommes. 5 Psaume 139 4 Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Cinquième proposition, il contraint absolument toutes les paroles humaines. 6 Exode 3 7 L'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Sixième proposition, il connaît toutes les tristesses des hommes. Il semble que parfois, ils ne les connaissent pas. Israël en a probablement douté quelquefois en Égypte. Et pourtant, il les connaissait en son temps, en a donné la preuve. 7 Psaume 139 1,2 Éternel tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. 1 Ch 28 9 Et toi, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Septième proposition, il pénètre toi les desseins et toutes les pensées, il comprend nos pensées bien à l'avance. 8 Matthieu 10 29,30 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté dans votre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. 8e proposition, la connaissance de Dieu s'étend aux plus infimes détails. 9 Actes 15 18 Ces choses connues du Seigneur de toute éternité. Ésaïe 46 9,10 Souvenez-vous de ce qui s'est passé, dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. 9e proposition Dieu a su de toute éternité ce qui sera de toute éternité. Comparé à Pierre un vain Christ prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps Marc 13 32. 10 Matthieu 20 17 19 Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Exode 3 19 Et les moi, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, pas même frappé par une main forte. Acte 3 17,18 Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. 2 Rois 7 1,2 Élisée dit Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle et deux mesures d'orge pour un sicle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit Tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point. Psaume 41:9 Vede mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Galates 1:15-16 Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. 1 Pierre 1 2 et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dixième proposition: Dieu a su, depuis le commencement, ce que chaque individu ferait. 11 Éphésiens 1 9 12 Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens 3 4 9 En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Colossiens 1 25,26 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Onzième proposition: Le plan complet des âges et le rôle qui joue chaque individu, a été connu de Dieu, de toute éternité. Il n'y a pas d'arrière-pensée en Dieu. Nous pouvons bien nous écrier aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Romains 11 33. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre VI. La sainteté de Dieu. Il le fait de la sainteté de Dieu. Ésaïe 6 3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Josué 24 19 Josué dit au peuple: Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Psaume 22 4 Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume 99 5,9 Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Ésaïe 5 16 L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Jean 10 7 11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 1 Pierre 1 15,16 Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit vous serez saints, car je suis saint. Première proposition: Dieu est saint. Absolument saint. Dieu est appelé le Saint d'Israël environ 30 fois, dans Ésaïe. Il est appelé ainsi également dans Jérémie, Ézéchiel et ailleurs. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Fils est appelé le Saint Ingin devint la troisième personne de la Trinité et constamment appelé le Saint-Esprit. La sainteté est l'essence même de la nature morale de Dieu. Ésaïe 57 15 Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Le nom représente le caractère et l'être. I. Que veut dire le mot saint? Lévitique 11 43 45 Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent, ne vous rendez point impurs par eux, Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Deutéronome 23:14 Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi, ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de toi. Remarquez le contexte de ce verset. Xim proposition saint peut dire libre de toute souillure, pur Dieu et saint veut dire Dieu est absolument pur. Un djinn un cinq la nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Note le système mosaïque entier des purifications: division du tabernacle, division du peuple en israélites ordinaires, lévites, prêtres et grands prêtres, auxquels il était permis de s'approcher de Dieu à des degrés différents et sous des conditions rigoureusement définies, l'insistance sur le sacrifice, comme intermédiaire nécessaire entre Dieu et l'homme, les directions de Dieu à Moïse dans Exode 3:5, à Josué dans Josué 5:15, le châtiment d'Ozia dans 2 Chroniques 26:16 et 23, les ordres stricts à Israël au sujet de l'approche du Sinaï quand Jéhovah y descendait, le destin de Corée, de Dathan et d'Abiram dans Nombre 16:1-33, la destruction de Nada et d'Abihu dans Lévitique 10:1-3, tout ceci devait servir à enseigner, à fortifier et à graver, dans l'esprit et le cœur des Israélites la vérité fondamentale de la sainteté de Dieu, sainteté inapprochable. La vérité que Dieu est saint est la vérité fondamentale de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de la religion juive et de la religion chrétienne. Comment la sainteté de Dieu se manifeste? Un Habacuc 1:13 tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Genèse 6:5-6 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Deutéronome 25:16 Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Proverbe 15:9-26 La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Troisième proposition, la sainteté de Dieu se manifeste par la haine du péché. Proverbe 15:9 Et mais il aime celui qui poursuit la justice. Lévitique 19:2 Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. Lévitique 20:26 Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Quatrième proposition, la sainteté de Dieu se manifeste par la joie de pratiquer ce qui est juste et saint. 3 Job 34:10 Écoutez-moi donc comme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Cinquième proposition, la sainteté de Dieu se manifeste en ce qu'il ne pratique jamais l'injustice et l'iniquité. 4 Ésaïe 59:1-2 Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sixième proposition, la sainteté de Dieu se manifeste par la séparation d'avec le pécheur. Ici intervient la nécessité de l'expiation avant que le pécheur puisse s'approcher de Dieu. C'est ce qui apparaît dans les passages suivants. Éphésiens 2:13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Hébreux 10:9-10 Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jean 14. Si Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Toute possibilité de s'approcher de Dieu n'existe que sur la base du sang du Christ. L'expiation trouve sa plus profonde raison d'être et son urgence dans la sainteté de Dieu. Toute doctrine de l'expiation qui n'en voit la nécessité que dans les exigences d'une sorte de formalité gouvernementale, ne va pas à la racine de la question. La raison première et fondamentale du fait que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché, réside dans la sainteté de Dieu. Si Dieu est saint, le péché doit être couvert avant qu'il puisse y avoir communion entre le pécheur et lui. 5 Exode 34 6,7 Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Genèse 6 5 7 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Psaume 5 5 7 Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Septième proposition La sainteté de Dieu se manifeste dans le châtiment du pécheur. Dieu ne punit pas le pécheur simplement parce que cela est nécessaire pour le bien de ce dernier. Dieu est saint. Il est le péché. Sa sainteté et sa haine du péché, comme chacun de ses attributs, sont vivants, actifs et doivent se manifester. Il faut que sa sainte colère contre le péché châtie et frappe. Voyez Ésaïe 53 6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. La traduction littérale de l'hébreu dit l'a fait retomber et t'a fait frapper sur. Toute théorie du châtiment du péché qui laisse de la pensée que ce châtiment est une expression de la sainte haine de Dieu pour le péché est non seulement anti-biblique mais déshonorante pour Dieu. Dieu est saint, infiniment saint et il est infiniment le péché. Nous avons parfois des aperçus de ce que doit être cette haine de Dieu pour le péché, dans notre propre et brûlante indignation vis-à-vis de quelque iniquité monstrueuse. Mais Dieu est infiniment saint et la colère de Dieu envers le plus petit péché, est infiniment plus grande que la nôtre envers la plus énorme iniquité. Dieu est amour, c'est vrai, mais cet amour n'est pas de cette espèce sentimentale qui envoie des bouquets coûteux et des billets, doux à des monstres moraux. Comme certains de nos théologiens universalistes voudraient nous le faire à croire, notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12 et 29 L'amour de Dieu pour les pécheurs ne sera jamais apprécié à sa valeur jusqu'à ce qu'il soit vu à la lumière de sa colère fulminante contre le péché. 6 Jean 3 16 Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Pierre 3 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 8e proposition La sainteté de Dieu s'est manifestée par l'infini sacrifice qu'il a fait lui-même pour sauver les hommes du péché et les rendre saints. La mort de Christ n'est pas seulement une manifestation de l'amour de Dieu, mais encore de sa sainteté. Déduction pratique de la doctrine que Dieu est saint. 1 Hébreux 12 28, 29 C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Exode 3 4,5 L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit Moïse. Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ésaïe 6:1-3. L'année de la mort du roi Ozia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est avec un respect solennel que nous devons nous approcher de Dieu. Même les saints séraphins couvraient leur face et leurs pieds en sa présence. Ils ont 4 ailes pour l'adoration et n'en ont que 2 pour le service. 2 Ésaïe 6:5-6. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. La pure lumière de la sainteté de Dieu révèle la noirceur du péché. Comparé, Job 42:5-6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Si un homme pense du bien de lui-même, c'est qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Rien ne démolit notre propre justice comme un aperçu réel de Dieu. Lorsque vous avez affaire à des propres justes, mettez-les, si possible, en la sainte présence de Dieu. 3 Hébreux 9:22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon sans expiation. Le péché doit être couvert devant le saint regard de Dieu, et rien ne peut le couvrir que le sang. 4 Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, quelle chose merveilleuse que l'amour de Dieu! Il ne serait pas merveilleux qu'un Dieu souillé aimât des hommes souillés, mais qu'un Dieu dont le nom est saint, le Dieu infiniment saint, puisse aimer des êtres aussi complètement pécheurs que nous, ceci est la merveille de toutes les éternités. Il y a bien des mystères dans la Bible, mais aucun n'est aussi profond que celui-ci. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre X. L'amour de Dieu. Il le fait que Dieu est amour. 1 Jean 4:8-16. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Première proposition, Dieu est amour. Non pas simplement Dieu aime, mais Dieu est amour. L'amour est l'essence même de sa nature morale. Il est la source de tout amour. 1 Jean 4:7. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Question: qu'est-ce que l'amour? Réponse: 1 Jean 3:16-17. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Matthieu 5:44-45. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'amour est un désir de contribuer au bien de l'être aimé et s'en fait une joie. Et qui Dieu aime-t-il? 1 Matthieu 3:17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 17:5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Luc 20:13. Le maître de la vigne dit : Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être auront-ils pour lui du respect. Xime proposition : Dieu aime son fils. Le fils de Dieu est l'objet primitif et éternel de son amour. Jean 17:24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Si Dieu est l'amour éternel, cet amour doit avoir un objet éternel. Il faut donc, à cause d'une nécessité qui réside dans l'être divin lui-même, qu'il y ait une multiplicité de personnes dans la divinité. L'éternel objet de l'amour divin est le Fils éternel. 2 Jean 16:27. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jean 14:21-23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Troisième proposition : Dieu aime ceux qui sont unis au Fils par la foi et l'amour. Dieu aime, comme nous le verrons bientôt, tous les hommes, mais il a un amour tout particulier pour ceux qui sont en Christ. Jean 17:23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu a exactement le même amour pour ceux qui sont en Christ que pour Christ lui-même. Naturellement, il y a un amour de Dieu pour ceux qui sont maintenant en Christ, qui précéda leur amour pour Christ. 1 Jean 4:19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 3 Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Timothée 2:4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quatrième proposition : Dieu aime le monde, la race humaine tout entière et chacun des individus qui la composent. 4 Romains 5:6-8. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Éphésiens 2:4-5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ézéchiel 33:11. Dit : Lors je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Cinquième proposition : Dieu aime le pécheur, l'impie, ceux qui sont morts dans leur péché. Dieu n'a pas le même amour pour le pécheur irrégénéré dû pour celui qui est en Christ. Jean 11:21-23, Jean 17:23, Romains 8:30-39. Mais Dieu s'intéresse particulièrement aux perdus. Luc 15:7-10. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, dû pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un père comprendra facilement quel est l'amour spécial qu'il porte à son vrai fils et celui qu'il a pour un enfant prodigue. Comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il ? 1 Ésaïe 48:14-20:21. Vous tous, assemblez-vous, et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dit l'Éternel à racheter son serviteur Jacob. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Deutéronome 32:9-12 Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements, il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Deutéronome 33:3-12 Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles sur Benjamin, il dit c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui, l'Éternel le couvrira toujours, et résidera entre ses épaules. Première proposition, l'amour de Dieu se manifeste en pourvoyant aux besoins et aux joies de ceux qu'il aime et en les protégeant de tout mal. 2 Hébreux 12:6-11 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Deuxième proposition, l'amour de Dieu se manifeste en châtiant et en éprouvant ceux qu'il aime pour leur bien, afin que ce châtiment porte des fruits paisibles de justice. 3 Ésaïe 63:9 Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Et il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Troisième proposition, l'amour de Dieu se manifeste lorsqu'il est lui-même affligé quand les siens souffrent, même si cette souffrance leur est infligée par sa propre main. 4 Ésaïe 49:15-16 Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Quatrième proposition, l'amour de Dieu se manifeste dans le fait qu'il n'oublie jamais ceux qu'il aime. Parfois, il semble oublier, mais ce n'est pas le cas. 5 Jean 4:9-10 L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cinquième proposition, l'amour de Dieu s'est manifesté dans le plus grand sacrifice qu'il put faire pour ceux qu'il aime, celui de son Fils, en propitiation pour le péché. Le sacrifice est la mesure de l'amour. Le sacrifice de Christ est la mesure de l'amour de Dieu. Comparez Genèse 22:12 L'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 6 Ésaïe 38:17 Vede voici, au lieu de la paix, j'avais amertume sur amertume mais toi, tu as aimé mon âme, la retirant de la fosse de destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Ésaïe 55:7 Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Sixième proposition, l'amour de Dieu se manifeste en pardonnant les péchés. C'est Éphésiens 2:4-8. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Septième proposition, l'amour de Dieu se manifeste lorsqu'il communique la vie à ceux qui étaient morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. 2. En les ressuscitant avec Christ. 3. En les faisant asseoir avec Christ dans les lieux célestes. 4. En leur montrant, dans les siècles à venir, les immenses richesses de sa grâce par sa miséricorde, par le Christ Jésus. Dieu a seulement commencé à s'occuper de nous. La plénitude de son amour n'est pas encore manifestée. Il ne fait que commencer à la dérouler devant nous bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3:2-8 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Huitième proposition, l'amour de Dieu se manifeste en permettant que nous soyons appelés enfants de Dieu. 9 Sophonie 3:17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il se reposera dans son amour d'arbi, il aura pour toi des transports d'allégresse. 9e proposition, l'amour de Dieu se manifeste lorsqu'il se réjouit en son peuple racheté, avec des transports d'allégresse. Comparez Luc 15:23-24. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il l'est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre X. La justice de Dieu. Il le fait que Dieu est juste. Esdras 9:15. À Éternel Dieu d'Israël, tu es juste. Psaume 116:5. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Psaume 145:17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Jérémie 12:1. As-tu été trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi? Jean 17:25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Première proposition, Dieu est juste. Qu'est-ce qu'être juste? Ézéchiel 18:5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Sophonie 3:5. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer, mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Être juste, c'est posséder ce caractère qui conduit à toujours faire ce qui est droit. Le mot hébreu, d'après son étymologie, signifie droit ou équitable. L'étymologie du mot grec est coutume ou usage, ce qui est conforme à l'ordre établi. La justice de Dieu est cet attribut qui le conduit à toujours faire ce qui est bien. Elle ne se borne pas, comme le prétend la théologie, à une mesure disciplinaire. Ceci, comme nous le verrons plus loin, n'est qu'une des manifestations de la justice de Dieu, mais non la plus importante, d'après la manière dont la Bible en parle. La sainteté semble se rapporter plutôt au caractère personnel de Dieu, la justice, à son attitude et à ses actions vis-à-vis des hommes. Comment la justice de Dieu se manifeste? 1 Psaume 11:4-7. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Première proposition, la justice de Dieu se manifestait par son amour pour ce qui est équitable et sa haine pour l'iniquité. 2 Exode 9 23 27 Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle, elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit cette fois, « J'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple nous sommes les coupables. » 2 Chroniques 12 5,6 Alors Shemaéja, le prophète, se rendit auprès de Robam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur dit ainsi parle l'Éternel vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent l'Éternel est juste. Daniel 9 12,14 Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Apocalypse 16 5,6 Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui y es, et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. » Xime proposition La justice de Dieu se manifeste en punissant les pécheurs selon leurs péchés. 3 2 Timothée 4 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 1 Rois 8 32 Écoute le des cieux, agis, et juge tes serviteurs, condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, et traite-le selon son innocence. Psaume 7 10 12 Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Hébreux 6 10 Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Troisième proposition La justice de Dieu se manifeste en accordant aux justes la récompense due à leur fidélité. 4 Psaumes 98 1 3 Psaumes Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Psaume 103 6 L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Psaume 129 1 4 Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. 2 Thessaloniciens 6,7 Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Quatrième proposition, la justice de Dieu se manifeste en protégeant et en délivrant son peuple de toutes ses détresses. Dans les discussions de la théologie moderne, nous entendons beaucoup parler de la justice de Dieu, en rapport avec le châtiment des pécheurs, mais dans la Bible, nous voyons cette justice se manifester encore davantage en rapport avec la protection de son peuple. Dans l'usage moderne, on la met en avant plus fréquemment comme un attribut de Dieu, devant lequel les pécheurs devraient trembler. Dans la Bible, on y revient constamment comme à un attribut de Dieu, au sujet duquel son peuple doit se réjouir dans la confiance. Voyez, par exemple, Psaume 96, 11, 13, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie, devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Jérémie 9, 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Psaume 116, 5,6. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Psaume 145, 14, 19. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Apocalypse 15, 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Même la justice de Dieu, en rapport avec la punition des pécheurs, est quelquefois mise en relation avec la délivrance et la justification de son peuple. Par exemple, 2 Thessaloniciens 6,7. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Apocalypse 19, 1,2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Apocalypse 16, 4, 6. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: tu es juste, toi qui y es, et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Ici, c'est pour venger et justifier son peuple, plutôt que pour faire souffrir les méchants, que sa justice est mise en première place. 5 Néhémie 9, 7,8. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Guirgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Cinquième proposition, la justice de Dieu se manifeste lorsqu'il tient ses promesses. Si Romains 3, 25,26, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Sixième proposition, la justice de Dieu se manifeste lorsqu'il a pourvu à un sacrifice propitiatoire par lequel le péché a été pardonné, lorsqu'il justifie celui qui a foi dans le substitut. C'est un djinn à neuf si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Septième proposition, la justice de Dieu se manifeste en pardonnant les péchés du croyant lorsqu'il les confesse. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre XI. Et la miséricorde, ou les compassions de Dieu. Note préliminaire, le même mot hébreu est quelquefois traduit par miséricorde, quelquefois par compassion, ces deux mots veulent dire exactement la même chose. On pourrait les traduire uniformément par le même mot, la signification du mot grec, dans le Nouveau Testament, est plutôt celle de miséricorde, mais il est le plus souvent employé dans le sens de bonté, surtout bonté exercée vis-à-vis des souffrants ou des pécheurs. Il fait que Dieu est miséricordieux. Psaume 103:8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Deutéronome 4:31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Psaume 62:12. À toi aussi, Seigneur, la bonté. Psaume 145:8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Psaume 86:15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Proposition: Dieu est miséricordieux, riche en bonté. I envers qui la miséricorde de Dieu se manifeste t-elle? 1 Romains 9:15-18. Car il dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Première proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste envers qui il veut. Il est absolument souverain dans l'exercice de sa bonté. Mais il faut se rappeler que si Dieu est absolument souverain dans l'exercice de sa miséricorde, et si personne ne peut lui dicter son attitude à cet égard de fait, c'est sa volonté d'avoir miséricorde envers tous ceux pour lesquels cela est possible. Voyez 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Deutéronome 7:9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Exode 26. Qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Psaume 103:11-17. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. 2 Chroniques 6:14. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Xime proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste envers ceux qui le craignent et qui l'aiment, envers ses serviteurs qui marchent devant lui de tout leur cœur. La crainte de l'Éternel et l'amour de Dieu, dans le sens où ces expressions se trouvent dans la Bible, sont presque synonymes. Comparez Proverbes 8:13-16:6 avec 1 Djinn 5:3. Elles décrivent la même attitude vis-à-vis de Dieu mais sous un angle différent. 3 Proverbes 28:13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Troisième proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste envers tous ceux qui confessent et délaissent leurs péchés. 4 Psaume 32:10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Quatrième proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste envers celui qui se confie en l'Éternel, il est environné de sa grâce. 5 Psaume 4:26-5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Cinquième proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste envers tous ceux qui l'invoquent. Voyez aussi Romains 10:12-13, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous deux un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 6 Ésaïe 49:13, cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sixième proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste envers son peuple dans la détresse. Comment la miséricorde de Dieu s'est-elle manifestée? 1 Exode 34:7 VO qui garde la miséricorde jusqu'à 1000 générations qui ôte l'iniquité, le crime et le péché, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ésaïe 55:7. Videz que le méchant abandonne sa voie, et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Jonas 4:2, il implora l'Éternel, et il dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Jérémie 3:12, va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Michée 7:18, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Psaume 51:3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Nombre 14:18-20, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple, depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Première proposition, la miséricorde de Dieu se manifeste en pardonnant le péché lorsqu'il est confessé et délaissé. Cette manifestation de la miséricorde est à la base de beaucoup d'autres manifestations. Toutefois, il n'est pas vrai, d'après l'emploi qui est fait dans la Bible de l'expression miséricorde, que celle-ci soit employée seulement lorsqu'il y a culpabilité. Donnez 19:16-18:26:27:30:31, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un voie en fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Voyez les versets intermédiaires. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entendis du haut des cieux, et, dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Xime proposition. La miséricorde de Dieu se manifeste lorsqu'il supporte les pécheurs, même lorsqu'ils raidissent leurs coups et persistent dans leurs péchés. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. 3 Psaume 6 2:5. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force, guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi, à cause de ta miséricorde. Philippiens 2 27. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Exode 15 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Troisième proposition. La miséricorde de Dieu se manifeste lorsqu'il délivre de la maladie, de l'épreuve, de l'oppression. 4 Psaume 21:8. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Quatrième proposition. La miséricorde de Dieu se manifeste lorsqu'il assure la sécurité de ceux qui se confient en lui. 5 Psaume 59:17. Et moi, je chanterai ta force, dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Cinquième proposition. La miséricorde de Dieu se manifeste en ce qu'il est une autre traité et un refuge, au jour de la détresse. Ce que la Bible enseigne sur Dieu. Chapitre 6. La fidélité de Dieu. Il fait de la fidélité de Dieu. Deutéronome 7 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Deutéronome 32 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Ésaïe 49 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Thessaloniciens 5:24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 2 Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Première proposition. Dieu est fidèle. I que veut dire fidèle? 1. L'étymologie. La racine hébraïque de laquelle sont dérivés les mots traduits par fidèle et fidélité, dans l'Ancien Testament, veut dire étayer, ou soutenir, ou entretenir. L'emploi intransitif du mot signifie s'étayer ou être soutenu ou entretenir. En conséquence, le mot fidèle, appliqué à une personne, implique le fait que cette personne est digne que l'on s'appuie sur elle. Le mot grec, employé dans le Nouveau Testament, veut dire digne de confiance ou sur lequel on peut s'appuyer, mais ce mot grec est le même que celui dont il est fait usage dans la version des Septante pour le mot hébreu déjà cité plus haut et, naturellement, il emprunte sa signification à cet emploi. 2 emplois. Psaume 119 4 26. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Proverbe 14 5. Un témoin fidèle ne ment pas mais un faux témoin dit des mensonges. Matthieu 24 45, 16. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Matthieu 25 21,23. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. 1 Timothée 1 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Apocalypse 21 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écrit, car ces paroles sont certaines et véritables, originales, fidèles. L'usage que fait la Bible de ce mot confirme son étymologie. La pensée ressort, plus complète et plus définitive, à mesure que nous constatons la manière dont la fidélité de Dieu se manifeste. Par conséquent, la proposition « Dieu est fidèle » veut dire que Dieu est un être sur lequel nous pouvons, et cela d'une manière absolue, nous appuyer et en qui nous pouvons nous confier. Jusqu'où va la fidélité de Dieu? 1 Lamentations 3 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh que ta fidélité est grande! Première proposition: la fidélité de Dieu est grande. 2 Psaumes 36 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Deuxième proposition: la fidélité de Dieu atteint jusqu'aux nues. Notez contexte, verset 6. Comparez Psaume 89 2. Car je dis ta bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. 3 Psaume 33 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Troisième proposition: toutes les œuvres de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Comment s'accomplit la fidélité de Dieu? 1 Hébreux 10 23,36,37. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Deutéronome 7 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Comparez 1 Roi 8 23,24,56. Ô Éternel, Dieu d'Israël. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Psaume 89 34,35. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 119 89 90 à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. Première proposition: la fidélité de Dieu se manifeste par l'accomplissement de sa promesse et de son alliance. Il garde la parole qui sort de sa bouche, indépendamment des actions de l'homme. 2 Pierre 4 19. Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Psaume 89 21 27. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Ce psaume mériterait de s'appeler le psaume de la fidélité. Voyez versets 1 et suivants. Deuxième proposition, la fidélité de Dieu se manifeste dans la défense et la délivrance de ses serviteurs, au jour de l'épreuve, de la tentation et de la lutte, et cela sans qu'il y manque jamais. 3 Lamentations 3:22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Comparez Jérémie 51:5. Car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Troisième proposition, la fidélité de Dieu se manifeste dans le fait qu'il se tient près de son peuple et le sauve, même quand il lui est infidèle. Comparé 2 Timothée 2:13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 1 Samuel 12:20-22. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon, vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Notre sécurité réside dans sa fidélité, non dans la nôtre. 4 Corinthiens 10:13b. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Quatrième proposition, la fidélité de Dieu se manifeste en ce qu'il ne permet pas que ses enfants souffrent ou soient tentés au-dessus de leurs forces. Avec la tentation, il pourvoit aussi d'un moyen d'y échapper afin qu'ils puissent la supporter. 5 Thessaloniciens 3:3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. 1 Corinthiens 1:8-9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 5:23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Cinquième proposition, la fidélité de Dieu se manifeste par l'affermissement et la préservation de ceux qu'il a appelés, les gardant du malin, les sanctifiant complètement et les conservant, esprit, âme et corps, irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'assurance que les enfants de Dieu ont, quant à leur avenir, n'a donc pas sa source en leur fidélité, mais en la sienne. Comparez Jean 10:28-29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 6 Psaume 119:75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Sixième proposition, la fidélité de Dieu se manifeste lorsqu'il punit ses enfants qui s'égarent. Comparez Hébreux 12:6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Jean 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Septième proposition, la fidélité de Dieu se manifeste dans le pardon qu'il accorde à ses enfants lorsqu'ils confessent leurs péchés. Notre assurance que Dieu pardonnera nos péchés lorsque nous les aurons confessés, repose sur deux faits connus qui concernent Dieu, à savoir que Dieu est juste et Dieu est fidèle. Douter que votre péché est pardonné quand vous l'avez confessé, c'est douter de sa justice et de sa fidélité aussi bien que de sa véracité. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la présomption. 8 psaumes 143 1,2 psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi, dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi. Huitième proposition. La fidélité de Dieu se manifeste dans l'exaucement des prières de ses enfants. La justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu marchent sur des routes à peu près parallèles et il a fait le serment qu'elle servirait toute à délivrer, à défendre son peuple et à compléter l'éternel salut de ce peuple.